Bonjour Monique Etienne, qui est mon invitée donc aujourd'hui pour nous parler de son retour de mission en Palestine. Vous faites partie de l'association France-Palestine Solidarité 04. Et donc on va revenir sur ces missions et peut-être aussi sur les événements qui ont lieu ces derniers temps, puisqu'il y a eu beaucoup de manifestations.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, donc on est parti en Palestine, Mireille Sève, la présidente de la FPS 04, moi-même qui suis vice-présidente, et Anne Toyon qui est la vice-présidente nationale de l'association, donc trois femmes. Nous sommes partis en mars pendant 15 jours, donc du 15 au 31 mars. Et pour reprendre les contacts, puis après donc 2 ans et demi de Covid, de confinement, etc., nous n'étions pas allés en Palestine. Nous étions dans les premières d'ailleurs à revenir. Et c'était très important pour encourager nos amis palestiniens qui se sont sentis bien isolés pendant cette période. Alors, les événements, en fait, ils sont en permanence en Palestine. C'est-à-dire que tout ce qu'on entend aujourd'hui dans les médias, c'est parce qu'il y a effectivement un événement important qui est cet assassinat d'une journaliste, Shirin Abu Akleh, qui était une journaliste d'Al Jazeera extrêmement populaire en Palestine puisqu'elle couvrait les événements depuis très longtemps. Et que ce n'est pas la première journaliste qui est tuée, c'est la première dont on parle vraiment dans les médias. Déjà, il y a eu 2 journalistes tués dans la bande de Gaza au moment de ce qu'on a appelé les marches du retour, où il y a eu énormément d'ailleurs de blessés, etc. Les journalistes sont menacés, et quand Israël dit qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé pour cette journaliste, il faut savoir quand même que c'était le jour d'anniversaire, le même jour où ils ont bombardé l'immeuble d'Al Jazeera il y a un an à Gaza. Donc ce n'est pas un hasard complet quand même que cette journaliste ait été tuée. Quant à rejeter la responsabilité sur les Palestiniens, c'est une tactique malheureusement courante dès qu'il y a une bavure, entre guillemets, parce que les bavures, elles sont quand même quotidiennes. Mais là, comme ça touchait une journaliste, on en parle. Toujours, Israël renvoie la balle en disant que c'est peut-être les Palestiniens. Et ça rappelle l'affaire Anderlin, où le jeune, le petit Mohamed Al-Doura, avait été tué au début de la deuxième intifada en 2001. À Gaza, et où Israël avait fait un procès même d'antisémitisme, etc., à un Charles Anderlin qui avait été vraiment harcelé à l'époque pour avoir soi-disant manipulé une information, alors qu'il s'est avéré que c'était bien les Israéliens qui avaient tué ce jeune homme, ce jeune garçon, c'était un tout petit garçon. Voilà. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que la situation en Palestine est extrêmement tendue parce que c'est en permanence. L'agression, entre autres, à Jérusalem. Bon, on a pu voir pendant le mois de Ramadan les incursions permanentes de l'armée et des colons sur l'esplanade des mosquées, qui est une provocation, surtout qu'il y a un accord comme quoi, pendant le Ramadan, les Juifs ne peuvent pas aller prier sur la mosquée. Il y a eu, pendant ce mois d'avril, 894 Palestiniens arrêtés de Jérusalem, 37 assignés à résidence, 590 personnes ont été bannies de la mosquée Al-Aqsa, ne peuvent plus y aller prier, il y a eu 463 blessés. Bon, ça, c'est rien qu'à Jérusalem. Depuis le 1er janvier 2021, il y a eu 400 morts palestiniens pour 21 Israéliens. Donc, nous, on a pu constater, c'est quotidien. Les villages qui sont menacés d'expulsion, qui sont obligés de lutter, parce que la stratégie, en fait, de la colonisation qui est effrayante, c'est-à-dire que quand on voit sur le territoire en Palestine, donc là, on parle bien de la Palestine occupée, de la Cisjordanie, puisque malheureusement, nous ne pouvons pas aller à Gaza, donc nous sommes allés uniquement en Cisjordanie, mais nous avons fait vraiment toutes les grandes parties de la Cisjordanie. Nous sommes partis de Jénine au nord, Jénine d'ailleurs qui en ce moment est sous la menace de l'armée israélienne en permanence. Nous avons fait Naplouse, Ramallah, Bethléem, Jérusalem, le sud Hébron et les collines du sud d'Hébron. Et nous sommes même allés dans le Negev pour soutenir les Bédouins qui ont la nationalité israélienne mais qui sont menacés d'expulsion en Israël même. Eh bien, nous avons pu constater à la fois le mitage complet du territoire par les colonies. Il y a plus de 660 000 colons aujourd'hui, dont 220 000 à Jérusalem-Est, sur une population quand même très, très petite. Donc on voit l'avancée des colonies, la prise de la terre. Et la stratégie, c'est qu'ils ont des colonies et ils ont soi-disant un périmètre naturel d'extension. Et ils procèdent toujours de la même façon. Il y a des avant-postes militaires qui s'installent sur les terres des Palestiniens, comme ça, une nuit, etc., et qui déclarent à partir de là que c'est leur terre. Et donc nous avons été, par exemple, dans ce village de Beta, à côté de Naplouse. Ça fait presque un an maintenant qu'ils luttent en permanence. Pendant 100 jours, jour et nuit, ils ont été sur le terrain pour empêcher cet avant-poste de s'installer sur leur terre. Ils ont réussi à les faire reculer, d'ailleurs, mais ils continuent à manifester. Et il y a, dans ce village, un petit village, 11 morts déjà en un an, plus de centaines de blessés, des centaines de blessés, et des manifestations tous les vendredis qui dégénèrent parce que l'armée tire avec des boules, cartouches en caoutchouc, des balles en caoutchouc, et souvent à balles réelles. Donc c'est la réalité des Palestiniens, tous les jours. Et là, récemment encore, ils viennent de décréter tout dans le sud d'Hébron, dans les collines du sud d'Hébron, des villages qui concernent 1500 personnes qui vont être détruits parce que c'est déclaré zone militaire. Parce que la stratégie, en fait, aujourd'hui, on peut dire d'Israël depuis sa création, c'est toujours d'instrumentaliser le droit, de s'appuyer sur un prétendu droit. Et là, c'est soit zone de sécurité, soit zone militaire, là c'est champ de tir, d'entraînement, etc., soit zone de protection naturelle de la terre, moyennant quoi ils s'approprient la terre. Donc c'est vraiment effrayant. Et à Jérusalem, donc, où nous sommes allés, la situation à Cheikh Jarrah, à Silwan, sont des situations infrahumaines pour les Palestiniens. Ils sont menacés d'expulsion, leurs maisons sont menacées de destruction, alors que le droit est pour eux. Le droit international d'abord, les conventions de Genève qui disent qu'un pays occupé ne peut pas, transférer ses populations ou les expulser, et même le droit interne est pour eux. Mais Israël instrumentalise le droit et va chercher des lois, y compris des lois qui datent de l'Empire ottoman quand c'était l'Empire ottoman qui occupait ces territoires, des lois britanniques, des lois jordaniennes, toutes les lois qui peuvent leur servir, ils les instrumentalisent pour justifier les expulsions, alors sans respecter effectivement leurs engagements, entre autres à Jérusalem, qui était de respecter une loi jordanienne qui n'avait pas pu être avalisée avant 67, au moment de l'occupation par Israël de Jérusalem et de la Cisjordanie en 67, au moment de la guerre des six jours, qui disait que les Palestiniens qui avaient été déjà expulsés de leur terre en 48 et qui s'étaient installés à Jérusalem-Est, qui vivaient depuis 3 ans dans leur maison, avaient des titres de propriété automatiques et ne pouvaient pas être expulsés. Israël s'est engagé en 67 à respecter cet accord. Et aujourd'hui, il dit qu'il n'est plus valable et il expulse les Palestiniens au nom de la volonté des Juifs qui habitaient Jérusalem-Est avant 48, de récupérer, soi-disant, leur maison. Donc c'est une violence terrible qui est faite à ces Palestiniens de Jérusalem, avec des gens qui sont complètement démunis, qui vivent dans des maisons menacées par les colons, harcelées, les pneus crevés, les gens qui rentrent dans leur maison, des femmes qui sont battues, etc. On a visité une femme qui était complètement, une femme artiste d'ailleurs, dont la maison a été détruite à l'automne, qui est complètement dépressive parce qu'elle a perdu tous ses repères, toute sa vie. Elle est née dans cette maison. son grand-père est arrivé en 1948 dans cette maison, qui a été détruite de manière complètement arbitraire. Et malgré le soutien de diplomates, y compris français, Israël a rasé la maison. Donc, ce sont des situations vraiment terribles, terribles. D'ailleurs, je peux vous lire ce que nous a dit un Palestinien de Jérusalem, du quartier de Silouane, un très jeune d'ailleurs, dont d'ailleurs la maison est aussi menacée. C'est un des responsables du centre culturel Al-Bustan, avec qui d'ailleurs il y a beaucoup de coopération. Il dit « À Jérusalem, nous n'avons pas d'existence institutionnelle. Tout le monde vit dans l'urgence et l'insécurité. Malgré tout, et c'est ça le message quand même d'espérance, parce que ça serait complètement désespérant si on ne s'en tenait qu'à ça, malgré tout, nous aimons la vie autant que nous pouvons, et nous serons un jour ce que nous voulons. Malgré tout, les enfants ont le sourire, ici on fait de la musique, cet endroit existe, il est signe de lumière. » Et je crois que c'est vraiment le message que veulent nous faire passer les Palestiniens, c'est-à-dire que malgré l'occupation, malgré la destruction, malgré l'oppression qui veut vraiment nier leur existence d'être humain, leur culture, leur identité, eh bien ils sont là, ce qu'on appelle le soumoud, hein, ils s'accrochent à leur terre, ils résistent, et ils veulent nous donner ce message d'espoir aussi que malgré tout, eh bien ils ne partiront pas et ils vivent. Ils vivent. Et vivre, c'est aussi, comme d'ailleurs, il y a un très beau slogan qui est montré sur les murs, c'est vivre, exister, c'est résister. Et je crois que c'est vraiment ça chez eux, exister, c'est résister.
Donc votre venue là-bas, c'est de porter la parole en France, de venir alerter ce qui s'y passe et...
Oui, alors c'est l'objectif des missions, de nos missions, c'est à la fois d'aller sur place et de se rendre compte. Je crois que tous les gens qui sont allés sur place, ils n'en reviennent pas indemnes, parce que s'il y a un conflit qui s'illustre vraiment, on peut dire, dans la terre, et qui est visible, c'est ce conflit... en Palestine, parce que l'occupation, elle n'est pas... Quand on parlait du mur de Berlin, c'est 700 kilomètres de mur de Berlin. Mmh. Et un mur qui est beaucoup plus haut que celui de Berlin. Quand on voit des maisons, on est allé visiter des maisons, un Palestinien qui vit littéralement enfermé entre les murs et les colonies. Donc il est coupé de son village, pour rentrer chez lui, il y a un portail en fer, mais un énorme portail en fer. Il est entouré de barbelés. Il faut sonner ou klaxonner. Il vient nous ouvrir. On passe sous un tunnel. Donc, il est coupé de son village. On passe sous le tunnel. On arrive dans cette maison qui est complètement cernée par les colonies de Jérusalem, de Bethléem. Et il est là avec ses moutons. Il n'a pas le droit de construire quoi que ce soit. Par exemple, sa petite maison, il a voulu construire des WC, une chambre pour ses enfants, puisque les enfants grandissant, il leur fallait une chambre et une salle de bain. Il a été obligé de détruire la salle de bain et la chambre. On voit les gravats. S'il ne les détruisait pas lui-même, c'était un bulldozer qui venait. Et il fallait payer, parce que non seulement on les oblige à détruire leur maison, mais s'ils ne le détruisent pas eux-mêmes, on leur fait payer les frais de destruction. Eh bien, malgré ça, cet homme résiste, il est là. Et on a par exemple l'objectif de notre mission aussi, c'est de soutenir la résistance populaire. Et donc la résistance populaire, c'est ce paysan qui a décidé de planter des cerisiers dans son champ. Donc, par exemple, la FPS 04 a participé à financer 200 cerisiers, avec d'autres groupes d'ailleurs de la FPS, 200 cerisiers qui sont plantés face à la colonie, dans ce paysage magnifique et en même temps terriblement meurtri, parce qu'on ne parle pas du désastre écologique aussi, de la construction de ces colonies. Donc, l'objectif de ces missions, c'est à la fois de se rendre compte de la situation, de témoigner à notre retour, d'apporter notre soutien. C'est très important qu'ils voient des gens qui s'intéressent à leur sort, parce qu'ils ont vraiment l'impression aujourd'hui, les Palestiniens, d'être abandonnés. Mmh. D'ailleurs, c'était quelque chose qui tous. Il n'y en a pas un Palestinien que nous ayons rencontré qui ne soit pas meurtri et complètement indigné par le deux poids deux mesures par rapport à l'Ukraine. C'est-à-dire que l'Ukraine est meurtrie. Deux jours après, l'Union européenne prenait des sanctions. Eux, ça fait 74 ans qu'ils réclament des sanctions contre Israël, qui tous les jours leur prend la terre, qui fait des crimes de guerre, qui est un régime d'apartheid, dénoncé d'ailleurs par Amnesty International, par Human Rights Watch, etc. Et rien ne se passe. C'est la totale impunité pour Israël. Donc ils étaient vraiment mais indignés de ce deux poids deux mesures et de cette injustice qui leur est faite. Donc la mission, on vient leur dire, vous n'êtes pas seuls malgré tout. On est là et c'est aussi nous la pression populaire. Et c'est pour ça qu'on témoigne aussi au retour. C'est que tout le monde se mobilise. Comment ça s'est passé pour l'Afrique du Sud? L'apartheid, elle est tombée le jour où les opinions se sont emparées de cette histoire et ont fait pression sur les gouvernants. On essaie, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc témoigner et puis surtout aussi apporter une aide donc concrète, comme je vous le dis, par rapport au cerisier. Mais c'est aussi l'huile d'olive que l'on vend ici qui aide les coopératives de production oléicole. C'est soutenir les Bédouins dans la vallée du Jourdain. C'est un de nos grands projets que nous menons avec d'ailleurs la FPS Rhône-Alpes. De soutenir donc les Bédouins qui sont les plus démunis et qui sont menacés vraiment de destruction et d'expulsion dans la vallée du Jourdain qui est annexée à 90% par Israël de manière illégale. Et en les aidant à rebâtir leur maison, à les isoler de la chaleur et du froid, en construisant des cuisines pour les femmes, des jardins d'enfants, etc. Donc c'est nos actions aussi concrètes sur le terrain. Et puis, c'est encourager la résistance populaire. Donc, nous avons, entre autres, été accueillis magnifiquement, d'ailleurs, parce que l'accueil palestinien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous avons donc travaillé avec les comités, la coordination des comités de résistance populaire, qui travaillent justement avec les villages menacés par la colonisation, et qui, donc, les aident, d'une part, en les soutenant, en étant présents, mais aussi en soutenant les centres de santé, en soutenant les écoles. Par exemple, nous avons participé à ce projet magnifique qui s'appelle projet DAFA. DAFA, ça veut dire chaleur, parce que dans des zones isolées, l'hiver, il fait froid. Les enfants sont extrêmement menacés par la pauvreté, par l'isolement. Donc, à leur distribuer des vêtements chauds pour l'hiver, à soutenir la construction d'écoles qui sont menacées de destruction dans les zones C. Les zones C, c'est les zones sur lesquelles peuvent intervenir en permanence l'armée israélienne. C'est, les zones C, c'est 60% de la Cisjordanie, et où ils interdisent aux Palestiniens de construire. Ils n'arrivent pas à avoir des permis de construire, donc ils construisent, idem d'ailleurs à Jérusalem, hein. Ils construisent sans permis et après, ils arrivent en disant « Vous avez construit sans permis, on détruit ce que vous avez construit », y compris pour des écoles, dans des zones comme cela. Donc voilà, nous avons soutenu ce projet-là et ce projet-là est très important dans la résistance. La résistance populaire, c'est aussi, nous sommes allés dans les suds d'Hébron. Hébron étant un cas d'école d'apartheid absolument terrible d'ailleurs, dans la ville même, hein. Mais là, c'est dans le sud d'Hébron, dans les collines, qui sont menacées, comme je vous le disais, il y a plus de 15 villages qui sont menacés de destruction. Eh bien, il y a ce qu'on appelle les Youth of Soumoud, les jeunes du Soumoud, qui sont là en permanence et qui interviennent pour protéger les bergers. Donc, dès qu'un berger est menacé par les colons qui descendent en disant « Vous n'avez pas le droit d'être là », eux, ils arrivent, ils filment. Ils envoient l'information sur les réseaux sociaux, ils les protègent, ils essaient de réhabiliter donc des logements, notamment des grottes dans lesquelles les Palestiniens s'étaient réfugiés. Ils sont là, donc ils aident les enfants pour aller à l'école, pour pas qu'ils soient agressés pendant le parcours. Donc c'est des tas de petites résistances comme ça au quotidien qui sont essentielles à l'heure actuelle, même si effectivement... il manque une réponse politique aujourd'hui en Palestine. C'est un des gros problèmes.
Donc vous êtes partie à deux seulement ?
Trois.
Trois.
Avec trois femmes. Donc la vice-présidente de la FPS nationale, Mireille Moussem et moi-même.
Trois femmes et toujours bien accueillies et pas de difficultés pour rentrer.
Alors là, on est passé sans problème au niveau d'Israël, parce qu'il faut, il n'y a pas d'État palestinien. Donc quand on veut aller en Palestine, on est obligé de passer par Israël. Donc là, on n'a pas eu de problème. Et puis ensuite, en Palestine, on est vraiment accueillis magnifiquement par les Palestiniens. Vraiment, il n'y a aucun problème d'être trois femmes et partout. Enfin, vraiment, ça fait partie d'un pays où on se sent vraiment en sécurité. Enfin, en sécurité, dans l'insécurité, hein, puisqu'il suffit qu'on soit dans une manifestation où il y a de la répression, bon, ben, on risque comme les Palestiniens. Mais c'est pas, la sécurité ne vient pas des Palestiniens, dirais-je.
Alors, donc, pour les aider, donc, c'est leur offrir cette possibilité d'avoir des cerisiers pour certains, d'acheter leur huile d'olive. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en France
Nous, ce qui nous importe, en fait, c'est... Parce qu'on n'est pas... Nous, on n'est pas une ONG humanitaire, donc notre objectif principal n'est pas des projets de développement. Les projets de développement, c'est vraiment important, à la fois pour développer la solidarité en France, parce que c'est vrai que les gens, ils ont envie d'avoir l'impression de faire quelque chose de concret, et donc c'est très concret d'aider à la construction d'une maison dans la vallée du Jourdain, à la replantation d'oliviers. On a, depuis une dizaine d'années, on participe au projet plus d'un million d'oliviers pour la Palestine, qui est de replanter des oliviers là où ils ont été arrachés pour construire le mur ou des colonies. C'est effectivement d'aller les aider à la collecte des olives en octobre, au moment où, de la récolte, pour les zones qui sont menacées par les Bédouins, par les Israéliens, excusez-moi. Bon, c'est donc le soutien à des projets santé. Nous sommes en train de monter un projet au niveau national, mais auquel nous participerons localement, de soutien à la santé mentale à Gaza, entre autres sur les chocs des psychotraumatiques des enfants. Parce qu'il faut imaginer quand même ce qu'est l'enfer de Gaza, en permanence menacé par des drones, par des bombardements, et l'impact que ça a sur les enfants. Donc là, on est en train de faire un gros travail de préparation sur ce projet-là. Et puis, donc, l'huile d'olive, bon, ça, tout ça, c'est des actions concrètes, mais aussi, notre but, c'est d'interpeller sans répit. Et malheureusement, sans grande réponse, notre gouvernement, sauf s'il change, mais bon, c'est bien mal parti, de l'interpeller pour faire appliquer le droit sur l'Union européenne. Alors, en ce moment, nous avons une campagne très, très importante qui s'appelle ICE. Donc, ICE, c'est une initiative citoyenne européenne qui fait que si il y a un million, on récolte un million de voix dans la pétition qui est lancée pour que l'Europe prenne une position claire pour interdire l'importation des produits des colonies israéliennes.
Donc, c'est un boycott qui a déjà
oui,
été mis en place.
Oui, alors là, maintenant, c'est une action. C'est vraiment cet ICE vient de commencer. Il faut vraiment que d'ici un an, on ait récolté un million de voix sur toute l'Union européenne, hein, les pays qui participent, pour exiger que l'Europe prenne vraiment une décision. Donc ça, c'est très important, et on vous invite effectivement à aller sur notre site de la FPS, hein, qui s'appelle france-palestine.org, pour signer parce que ça ne peut se faire qu'en ligne, ou alors par un QR code. Donc cette signature, il nous faut vraiment un million de voix, et c'est très très important de se mobiliser sur cette question. Nous avons une campagne en permanence contre l'apartheid. Alors, la notion d'apartheid, c'est quelque chose qui est qui maintenant est reconnu pour par des rapports humanitaires qui ont été faits très très importants. Donc, entre autres, le premier, c'est B'Tselem, qui est la plus grande organisation des droits de l'homme israélienne, hein, qui a fait un rapport très argumenté pour dénoncer effectivement le régime d'apartheid d'Israël contre les Palestiniens. Human Rights Watch, qui est une des plus grandes organisations aussi, et très très important, Amnesty International, donc qui ont effectivement dénoncé la situation d'apartheid. Et là, en ce moment, d'ailleurs, la FPS, on a une quinzaine contre l'apartheid. Notre mot d'ordre, c'est de reconnaître l'apartheid et que le gouvernement français le reconnaisse pour le combattre et l'éliminer. On pense qu'effectivement, ce que définit le statut de Rome de 1998, parce que souvent on nous oppose, oui, mais vous savez, la situation d'Afrique du Sud et à Israël, c'est complètement différent. Mais le statut de Rome de 1998, qui institue la Cour pénale internationale, il a défini l'apartheid comme un crime contre l'humanité. Et il dit, il s'agit d'actes inhumains commis dans le contexte d'un régime institutionnel d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur un autre, commis avec l'intention de maintenir ce régime. On rentre exactement dans cette définition pour ce qui est de la stratégie actuelle d'Israël, puisque c'est à la fois fragmenter le peuple palestinien n'a aucune unité, et n'ont pas les mêmes statuts entre les Palestiniens de Cisjordanie, ceux de Gaza, ceux de Jérusalem, qui ont une carte de résident mais qui n'ont aucune nationalité, les Palestiniens qui sont dans Israël, qui ont la nationalité israélienne mais qui n'ont pas la citoyenneté, et qui sont 20% quand même de la population d'Israël, plus les réfugiés. Donc on voit que tous ont des statuts complètement différents, que la terre est fragmentée, comme je vous le disais, par le mur, par les colonies et les villages complètement isolés, qu'ils n'ont pas le droit de circuler librement, qu'ils ont des statuts juridiques différents. Par exemple, tous les Palestiniens de Cisjordanie sont soumis à la loi militaire, à la juridiction militaire, alors que, par exemple, les colons qui habitent en Cisjordanie de manière illégale, eux, ils ont une juridiction civile. Quand il y a quelque chose, c'est le civil qui les juge, alors que tous les Palestiniens sont jugés par le militaire. Donc on voit la différence de statut. Donc tout ça, c'est très important de sensibiliser chez nous à ce régime d'apartheid, le dénoncer en s'appuyant sur des faits très concrets. Donc c'est des campagnes que nous menons d'information, de sensibilisation, d'interpellation de nos députés, de nos élus, du gouvernement, de l'Union européenne. C'est exiger, donc bientôt, là, il va en juin, ça fera 15 ans que Gaza est soumis à un blocus inhumain, donc exiger la levée du blocus de Gaza. C'est les campagnes contre ce qu'on appelle BDS, boycott des investissements, sanctions, donc boycotter les produits les produits d'Israël qui viennent des colonies, comme les dattes medjool, etc., dont on sait qu'elles sont faites dans les colonies, puisqu'ils viennent de la vallée du Jourdain, par exemple. C'est le désinvestissement, c'est-à-dire, par exemple, toute l'action qu'on a pu mener contre Veolia et le tramway à Jérusalem qui niait complètement la réalité de l'occupation de Jérusalem-Est. C'est des actions qu'on a pu mener contre Orange parce qu'il travaillait avec les colonies. C'est le désinvestissement. Et les sanctions. Les sanctions, c'est exiger ne serait-ce que le respect du droit au niveau de l'Union européenne, les accords d'association entre Israël et l'Union européenne. L'article 2 dit qu'Israël doit respecter les droits de l'homme, ce qu'il ne fait pas. Et donc on pourrait exiger, et on doit exiger, la suspension de ces accords en vertu de la violation de l'article 2. C'est le soutien et l'interpellation de la CPI, de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. On en parle beaucoup aujourd'hui pour l'Ukraine. Il y a des dossiers qui ont été présentés à la Cour pénale internationale. C'est vraiment soutenir ces demandes-là. c'est soutenir l'exigence d'un État palestinien, la reconnaissance d'un État palestinien, que la France s'honorerait enfin à reconnaître. Il y a plusieurs pays qui l'ont reconnu, mais aucun pays européen. Donc voilà, c'est nos actions concrètes. Et donc resserrer les liens avec les Palestiniens, c'est aussi les inviter en France. Là, en ce moment, il y a toute une tournée de jeunes Palestiniens qui font le tour de certaines villes de France pour rencontrer les jeunes Français, pour parler donc de leur vie quotidienne et aussi de leur résistance. C'est inviter les Palestiniens avec lesquels on travaille. Enfin, voilà, c'est tout cela, notre action de solidarité en France aussi, et c'est très important.
Il n'y a pas des fois des moments où vous démoralisez de voir que ça avance si peu du côté des gouvernements?
Je crois que c'est une des difficultés qu'on a, c'est de ne pas se désespérer. Mmh. Et je pense que c'est effectivement la difficulté. Je vois par exemple... ça fait donc 21 ans que nous existons dans le département. Hein. J'ai créé l'association avec un petit groupe en 2001. Nous avions mené une très, très grande action de solidarité qui avait réussi à fédérer plusieurs municipalités, dont celle de Digne, d'ailleurs. Le conseil général, à l'époque, c'était Jean-Louis Bianco. Et énormément de gens autour de ce projet de création de la filière oléicole palestinienne. Nous avions un technicien agricole, Jean-Marie Baldassari, d'ailleurs, de la Chambre d'agriculture, qui était venu avec nous, qui a fait un énorme travail avec les Palestiniens pour la rénovation de leurs moulins. Et on avait vraiment toute une dynamique créée. Et je crois que les gens, au bout d'un moment, ont l'impression de baisser les bras. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, finalement, puisque rien ne change? Et c'est vraiment... notre souci principal, c'est de combattre... l'apathie que peut entraîner effectivement le fait que rien ne bouge, en apparence, rien ne bouge. Et c'est aussi l'intérêt de ces missions, et amener des gens là-bas, c'est aussi leur redonner de la force, parce que nous, quand on va là-bas, on pourrait dire on va être désespéré par la situation. La situation est effectivement désespérante, mais les gens là-bas, les Palestiniens, ceux qui résistent, sont tellement forts, ont tellement d'énergie que quand on revient, ils nous donnent de la force. Je crois que c'est un peu ce qui se passe, les gens qui vont en Ukraine en ce moment. Je pense que c'est très, très important d'aller là-bas et de se ressourcer à eux. C'est incroyable, parce qu'en fait, on y va là pour les soutenir, mais eux, ils nous redonnent de la force. Et je pense que quand on revient, on est effectivement mobilisé de nouveau en se disant, de toute façon, il faut les soutenir. Ils ont raison, il faut défendre le droit. Il faut défendre le droit. On ne peut pas être absent de cette injustice qui est faite là. Donc je pense que, bah oui, comme vous dites, il y a des moments où on se dit, bon, c'est difficile. Mais en même temps, c'est mobilisateur. Et puis il y a l'humain qui est là et les relations qui se nouent et l'envie, effectivement, de continuer cette solidarité qui est très riche et très concrète. Riche humainement, bien sûr.
Donc pour les personnes qui nous écoutent, pour être utiles, il faut commencer par signer. Donc,
alors voilà, allez sur notre site, signer cette pétition ICE, c'est aussi bon, aider. Hein, il y a ce qu'on appelle SOS Palestine. Vous pouvez verser des dons qui vont directement être pour la résistance, pour la santé, pour l'éducation. Il y a plusieurs projets que vous pouvez soutenir. Bon, ici, chez nous, vous pouvez donc aller sur notre site de l'AFPS 0, alors l'AFPS 04. Est-ce qu'il est marqué quelque part? Je ne sais pas si je l'ai là. Enfin, nous avons un site de l'AFPS 04 aussi. Donc, vous pouvez...
Donc, sur lequel on peut voir tout ce qui a été fait.
Voilà, tout ce qui est fait. Prendre contact, donc, avec nous pour soutenir les projets. Et puis, par exemple, hier soir, nous étions... on fait beaucoup d'actions aussi avec, autour de films. Donc hier, il y avait un débat, projection débat ciné-étoile. Donc c'est un moyen aussi de nous contacter et de pouvoir soutenir nos actions, tout simplement.
Donc les prochaines manifestations que vous allez faire, vous, Monique Etienne, hein?
Ce que je sais, c'est que nous allons faire une semaine importante à la médiathèque en décembre, enfin fin novembre, sur l'apartheid justement, où il y aura à la fois des spectacles, une exposition, des conférences, etc., pour bien expliquer et mobiliser sur ce qu'est l'apartheid en israélien contre les Palestiniens. Et puis avec, effectivement, des belles rencontres. Donc ça, c'est une des grosses manifestations que nous préparons. Je pense qu'en juin, nous allons faire quelque chose, mais il n'y a pas encore la date fixée pour la levée du blocus de Gaza. Il y a toujours la vente d'huile, hein, vous pouvez toujours commander de l'huile aussi. Principalement, là, pour l'instant, c'est cela, puisque la semaine dernière, nous avons fait notre Assemblée générale et nous avions aussi un concert au mai. Enfin bon, il y a plusieurs initiatives de ce type-là qui se mènent.
Est-ce que tout est dit ?
Je pense que l'essentiel... Bon, on n'a pas parlé de la situation en Palestine. Hein, je crois qu'une des grosses difficultés aujourd'hui en Palestine, c'est la division des Palestiniens au niveau politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse politique. L'autorité palestinienne, elle gère un quotidien difficile, mais elle est aussi dans une impasse, puisqu'il y a des divisions terribles entre Hamas et Fatah. Il y a eu blocage des élections. Par exemple, Mahmoud Abbas, qui a été élu président en 2006. Depuis, il n'y a plus d'élections. Donc c'est effectivement un gros problème de démocratie, même si la démocratie est très difficile à faire dans un pays occupé. Mais quand même, la société palestinienne attend un renouveau politique qui ne vient pas. Et effectivement, tant qu'il n'y a pas cette réponse-là, la résistance reste sur le terrain. Mais il n'y a pas l'allant que lui donnerait effectivement ce qu'était avant l'OLP avec Yasser Arafat, c'est-à-dire un élan politique qui réponde aux exigences pour la souveraineté palestinienne. Donc là, c'est vraiment une des difficultés actuelles. Et on espère que les choses vont avancer, mais ça paraît bien bloqué, effectivement, actuellement. Et c'est un des gros problèmes qu'ont les Palestiniens. Mais eux, ils sont là, ils bougent, ils s'unissent. Parce que ce qui est très important à travers la notion d'apartheid, c'est qu'ils ont réussi, les Palestiniens, à se réunifier malgré la fragmentation, et à lutter ensemble sur un certain nombre de thèmes qui sont l'exigence de l'égalité des droits et l'exigence de la reconnaissance de leurs droits. Et ça mobilise aussi bien les Palestiniens qui sont en Israël que ceux de Jérusalem, que ceux de Cisjordanie, que ceux de Gaza. Et c'est vraiment très, très important. Et c'est une lutte qui est menée par la jeunesse. Parce que contrairement à chez nous, où nous avons tellement de mal à mobiliser les jeunes... dans nos associations, hein, faut bien le dire, la Palestine est un pays jeune et les jeunes sont vraiment là dans tout ce qui est la résistance et l'exigence de leurs droits. Donc je pense que c'est l'avenir aussi, c'est la jeunesse.
Monique Etienne, merci. Et puis on va rester sur cette note d'espoir. Et puis à bientôt sur notre antenne. Au revoir.